Écoutez, merci de m'accueillir. En deux mots, moi j'ai une vie professionnelle compliquée parce que je suis historien de formation au départ. Ensuite, au bout de 5 ans, j'ai commencé à m'emmerder dans l'enseignement, donc j'ai passé l'ENA. Après, j'ai été juge administratif et je me suis emmerdé au bout de 5 ans, donc je suis passé au ministère de la Défense parce que j'étais le seul sinisant de ma promotion, donc je suis passé dans différentes fonctions au ministère de la Défense. Puis au bout de 5 ans, le cycle d'emmerdement se renouvelant, si vous voulez, je suis passé à Matignon. Pour ceux qui veulent la haute fonction publique, c'est intéressant de savoir que c'est quand même le plus gros employeur de France. C'est-à-dire que la possibilité de changer complètement de métier est quand même une source de motivation qui peut être importante. On ne fait pas une belle carrière, mais intellectuellement, ça maintient jeune. Donc, je vous le dis. Après, au bout de 5 ans à Matignon, je suis revenu au ministère de la Défense où j'ai fait tout sauf de l'administration, c'est-à-dire ce à quoi me formait l'ENA. Et il y a une dizaine d'années, j'ai quitté l'administration pour diriger une société d'intelligence économique. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, si vous voulez, j'ai toujours essayé de mêler ce qu'ont été les connaissances théoriques avec un exercice pratique qui était évidemment autour des métiers de la connaissance, de l'intelligence au sens renseignement et évidemment du mensonge, qui est aussi un élément important de la politique internationale. Alors, à la demande de votre camarade, il m'a demandé de venir faire une conférence sur le terrorisme et notamment les moyens de traiter le terrorisme. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est un sujet que vous connaissez, enfin je sais bien que c'est un sujet d'actualité, mais j'ai voulu refaire un petit background parce que, encore une fois, le terrorisme, c'est un concept, si vous voulez, qui est aujourd'hui utilisé un peu à toutes les sauces. Et donc, je voudrais qu'on fasse un petit retour historique pour vous expliquer quelles ont été les différentes étapes du terrorisme. Et première chose, le terrorisme, c'est à la fois un mode d'action et une invective. C'est-à-dire, vous savez, on est toujours le terroriste de l'autre, hein, ou c'est l'autre qui est le terroriste. Enfin, ça, c'est pas un truc nouveau. Mais en général, l'utilisation de l'invective permet d'éviter de s'interroger sur sa propre responsabilité. Les combattants de l'indépendance algérienne étaient évidemment des terroristes, puisqu'ils contestaient la loi française, qui était évidemment la loi républicaine. Et parmi les exemples, si vous voulez, que je cite souvent, comment dire, d'hypocrisie internationale, quand on signe la Charte internationale des droits de l'homme à l'ONU en 1948, deux pays signataires sont les deux plus grandes puissances coloniales de la planète, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne, qui évidemment affichent les droits de l'homme, sauf à leur population colonisée. Les Soviétiques n'en parlent même pas, les Américains n'en parlent même pas sur l'Amérique latine. Donc on est dans un bal de faux cul, si vous voulez, mais ça fait partie de la vie internationale. Bon. Alors le terrorisme, c'est donc une invention qui est très utile, encore une fois, pour l'utiliser, si vous voulez, dans un débat politique qui n'a rien à voir avec le débat stratégique. Première chose, moi je prends toujours le terrorisme sous les deux définitions qu'en ont donné Aron et Gérard Chalian. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte que l'action terroriste n'est qu'une forme violente dont l'effet psychologique est beaucoup plus important que l'impact stratégique. C'est-à-dire que même avec le 11 septembre, personne ne pensait une minute que les États-Unis allaient s'écrouler. Mais par contre, évidemment, le choc traumatique, les réactions que ça allait susciter, etc. L'effet psychologique qui oblige le gouvernement à décider, même chose pour les attentats de janvier en France, c'est ce que recherche le terrorisme. Et deuxième chose, enfin deuxième définition, celle de Gérard Chalian, qui est à mon avis un des meilleurs spécialistes mondiaux, si ce n'est le meilleur des questions terroristes, c'est justement de dire c'est la forme la plus violente de la guerre psychologique. Alors, ceci pour sortir du débat politique, encore une fois, parce que tout ce qui est l'invective sur la guerre globale contre le terrorisme, qui est quand même une des erreurs stratégiques majeures de l'Occident sur ces 10 dernières années, hein, quand même. C'est quand même, on va essayer d'y revenir, mais c'est la première fois qu'une puissance décide de faire la guerre à des concepts. Avant, on faisait la guerre à des pays, on faisait la guerre à des causes. Là, on fait la guerre à un concept. Et puis, on a ajouté en plus la prolifération, histoire d'être encore plus clair sur la logique de la guerre. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la guerre globale contre le terrorisme, encore une fois, ça supposait que le terrorisme soit un concept unique. On va essayer de montrer que ce n'est pas le cas. Deuxième chose, vous avez quand même réussi la performance de George Bush dans son discours à l'État de l'Union de janvier 2002, où il explique que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, alors qu'il n'y avait qu'un Saoudien sur 19 terroristes dans les attentats du 11 septembre. Donc, genre jeu de passe-passe, si vous voulez, auquel d'ailleurs les Occidentaux ont adhéré, hein, puisque finalement, toute l'OTAN s'est solidarisée dans l'attaque sur l'Afghanistan, etc. C'est quand même assez remarquable. Alors, on aura à y revenir parce que on est en plein mélange des genres, notamment dans l'utilisation des moyens militaires. Alors, là, je suis revenu en arrière. Revenons juste un petit rappel historique rapide. N'oubliez pas qu'il y a deux matrices, si vous voulez, qui ont les premières à utiliser le terrorisme. Je ne reviens pas sur les assassins, etc. Le vieux de la montagne, tout ça, c'est en général, quand on ne sait pas quoi écrire, on va chercher sur Wikipédia et on commence par raconter qu'on a un background historique avec les assassins. Ce n'est pas le sujet. Le terrorisme moderne, c'est en gros le populisme russe et les anarchistes. Le populisme russe, une originalité très forte, c'est comment dire, il n'y avait pas de base idéologique et politique, si ce n'est le renversement du régime, mais surtout la volonté absolue de ne toucher aucune victime collatérale. C'est-à-dire, on a le cas d'attentats qui ont été organisés, notamment contre le grand-duc Serge, mais qu'on a annulé à la dernière minute parce que la grenade qui devait être lancée risquait de toucher des gens qui étaient autour du cortège. Et donc, c'est l'exemple même, si vous voulez, c'est la pièce de Camus sur les justes, c'est est-ce que le terrorisme justifie, si vous voulez, qu'il y ait des victimes collatérales. Bon, cela dit, indépendamment des attentats arrêtés, il y a aussi des attentats qui ont réussi. Alors, le paradoxe de ce populisme russe, c'est qu'en assassinant Alexandre II, qui était en fait le plus libéral des tsars, on a abouti à un durcissement du régime. Méthode policière, c'est-à-dire, effectivement, arrestation, enfin, la police politique tsariste était à peu près aussi efficace que le KGB, donc de toute façon, arrestation au chalut, si vous voulez, et torture, et donc finalement des systèmes démantelés, mais avec une base idéologique comme la même que dans l'anarchisme, c'est-à-dire l'action violente va marquer le réveil des peuples, c'est-à-dire les masses vont se soulever. Et donc, si vous voulez, l'analyse politique de ce qui suit l'acte violent n'existait quasiment pas. Il y avait une espèce de spontanéisme, enfin de populisme, qui devait se déclencher la révolution. Alors c'était chez les anarchistes l'idée de la propagande par le fait, c'est-à-dire que l'attentat terroriste devait éveiller la conscience. Et évidemment, les actions de propagande par le fait, ça incluait aussi les attaques de banques, puisque évidemment c'était l'attaque contre le capitalisme dans sa forme la plus violente de l'époque, c'était effectivement les expéditions punitives et autres. C'est ce qu'on retrouve un peu dans les comportements de Action Directe et de Bader-Meinhof, mais on y reviendra, si vous voulez, ou même aujourd'hui avec les Black Blocs, hein, que je ne qualifierais pas de groupes terroristes, mais qui sont des groupes radicaux, qui légitiment la violence, si vous voulez, y compris contre des signes extérieurs de la mondialisation. Donc, on laisse un peu ça de côté, simplement pour vous rappeler que ces terrorismes du 19e siècle, donc l'objectif, c'est le changement de régime, ça part d'une analyse politique assez populiste. Les masses vont se réveiller, la conscience va tout à coup les soulever. On se limite au territoire national, on a très peu d'actions extérieures. Et puis, c'est la démarche générale de contestation du système. L'action policière est en général efficace, puisqu'il n'y a pas de base sociale. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des groupes relativement limités qui font des actions violentes qui se légitiment par elles-mêmes. Action policière, torture, peine de mort. Plus intéressants, si vous voulez, sont les terrorismes liés aux guerres de décolonisation. Parce qu'effectivement, là, on entre dans une époque, si vous voulez, qui va grosso modo couvrir la deuxième moitié du XXe siècle, qui sont des formes de terrorisme attachées à une revendication ethno-nationaliste, c'est-à-dire soit l'indépendance des colonies, soit la sécession d'une région. Et donc, il y a un objectif affiché dès le départ, et l'action terroriste s'articule avec une démarche politique. Alors, les cibles sont en général liées au fait qu'il y a une analyse idéologique et une analyse politique. Donc, on va d'abord viser les forces ennemies. C'est en particulier le cas le plus réussi. C'est l'attentat contre l'hôtel King David en 1946 à Tel Aviv, parce que c'est le siège du quartier général des forces britanniques. On est à l'époque sous le mandat britannique. Et l'analyse politique qui préjuge à cet attentat, c'est de dire la Grande-Bretagne est épuisée par 6 ans de guerre. Elle n'enverra pas des troupes à nouveau pour se battre, pour rétablir le mandat sur la Palestine. Et donc, c'est le coup, si vous voulez, stratégique qui, effectivement, va marquer la rupture politique. La Grande-Bretagne avait encore les moyens militaires de poursuivre une guerre, mais vous voyez bien, dans le sens où l'action psychologique a complètement réussi, puisque 1947, indépendance d'Israël, etc. Autre remarque, indépendamment des forces ennemies, dans les pays colonisés, c'est évidemment la population civile colonisatrice. Bon, il y a une phrase du... Par exemple, une directive de 1956 du FLN algérien qui dit tuer un Européen en ville est beaucoup plus important que 10 dans le bled. Parce qu'en ville, ça va être immédiatement, médiatiquement, si vous voulez, immédiatement répercuté. Et donc, l'action psychologique va porter. Le but de ces actions, notamment sur les populations dispersées, c'est l'épuration ethnique, c'est-à-dire qu'on fait partir des populations qui sont dispersées dans les campagnes. Bon, il y a l'exemple de Deir Yassin, qui est un exemple assez intéressant de village palestinien encerclé au moment de la guerre de 1947, et où un certain nombre de Palestiniens ont été massacrés. Mais ce qui est intéressant, c'est l'utilisation psychologique de la chose. C'est-à-dire, l'Irgun voulait effectivement faire partir les Palestiniens des zones attribuées à Israël. Les Palestiniens ont vu dans ce massacre la possibilité d'utiliser le massacre comme un argument. Mais en gonflant le nombre de morts, ils ont en fait provoqué eux-mêmes le départ. C'est-à-dire que vous avez eu la gestion d'un attentat qui était relativement limité dans son effectif, mais qui, voulant être utilisé dans un argument de contre-propagande, a en fait abouti à faire partir beaucoup de gens parce qu'ils ont pensé qu'effectivement tous les villages étaient menacés. Alors, les caractéristiques de ce terrorisme, c'est évidemment que c'est associé à une guérilla classique, hein, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Algérie, etc. Donc, il y avait une articulation d'une stratégie militaire avec une stratégie terroriste et d'une stratégie politique avec une stratégie militaire. L'action est évidemment limitée géographiquement, c'est-à-dire que, évidemment, c'est d'abord dans le pays colonisé, si possible sur la métropole, mais la plupart du temps, c'est sur le pays colonisé. Et en général, c'est un terrorisme qui s'éteint avec la résolution du problème. Le terrorisme algérien s'est arrêté avec l'indépendance, le terrorisme vietnamien s'est arrêté avec l'indépendance, etc., etc. La conséquence humaine la plus intéressante, c'est qu'évidemment, ça blanchit les terroristes. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous devenez un combattant de l'indépendance, et évidemment, ça n'a plus le qualificatif de terroriste, ne fonctionne que pendant la guerre. Après, vous devenez un héros. Donc, c'est pour ça que l'invective, si vous voulez, on peut l'utiliser à tout moment. Ce n'est pas un problème. Ça ne préjuge en rien de votre avenir. Ça participe de la stratégie de la guerre révolutionnaire telle qu'on l'a étudiée, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, notamment les parachutistes. C'est-à-dire que ce terrorisme, encore une fois, il s'articule dans une hiérarchie dans laquelle vous avez un parti politique, en général de type léniniste, c'est-à-dire un parti qui centralise les décisions, qui dirige l'action armée, et en général dans un programme frontiste. C'est-à-dire, il dit, l'indépendance va concerner tous les Algériens, stratégie du Front National de Libération, ou éventuellement du FNLV vietnamien, c'est-à-dire technique frontiste, on va réunir tous les gens, pas seulement des communistes, mais puisque le but commun, c'est de gagner le soutien de la population, ou éventuellement de le forcer. Mais ce parti de type léniniste a un discours, encore une fois, dont la logique politique ne préjuge pas du régime qui va suivre. Deuxième remarque, c'est le contrôle de la population. Alors à ce moment-là, si vous voulez, l'action armée va viser à couper les relations entre les deux populations, la population colonisatrice et la population colonisée. Par exemple, assassinat de gardes champêtres, assassinat de gendarmes, etc. C'est-à-dire de tous les gens qui font, si vous voulez, l'imprégnation des deux cultures l'une avec l'autre. Ou assassinat de Bachaga en Algérie, etc. La revendication politique est claire. Il y a une action diplomatique internationale qui n'est pas une action violente. C'est-à-dire qu'on a encore une fois pour but, par exemple le FLN, d'accéder à l'ONU avec le soutien des pays arabes et donc de faire reconnaître la légitimité de la cause de décolonisation. Et encore une fois, c'est une guerre de harcèlement dans les campagnes. Cela dit, la guerre d'Algérie comme la guerre du Vietnam n'a pas été gagnée par des moyens terroristes. Aucune guerre n'a jamais été gagnée par des moyens terroristes. Encore une fois, si elle a été gagnée politiquement, c'est-à-dire c'est parce qu'à un moment, l'opinion publique française se dit à quoi bon continuer, de toute façon l'Algérie deviendra indépendante. Et donc alors que l'armée française avait quasiment réduit les maquis dans l'Algérie des années 62, en fait, c'est le gouvernement qui décide des accords d'Évian, négociations et finalement indépendance de l'Algérie. Bon. Vous connaissez la suite du problème, c'est que finalement, comme l'armée de l'intérieur avait été exterminée par l'armée française, en fait, c'est l'armée de l'extérieur qui était en fait de l'autre côté des frontières qui est rentrée, qui a occupé le pouvoir, donc avec tout ce problème de légitimité, si vous voulez, des combattants par rapport aux gens qui étaient à l'extérieur. Parmi les faits d'armes pas très glorieux de l'armée française, dans le contrôle de la population, il y a toujours cette idée qu'on voulait faire de la stratégie contre-révolutionnaire, c'est-à-dire on veut priver le combattant, le poisson de son eau, donc on vide les populations civiles, on les regroupe dans des camps qui étaient des camps de regroupement, pour que les Felaga n'aient plus le soutien de la population comme ils l'avaient jusque-là. Ce n'est pas très glorieux, parce qu'en général, ces camps de regroupement étaient quand même des camps dans lesquels les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Et en plus, évidemment, être arraché de son douar, si vous voulez, pour vivre dans un camp de regroupement, ce n'était pas, pour la suite de l'indépendance, ça a été une lourde charge. Alors, comment est-ce que l'armée française a géré la question terroriste pendant la guerre d'indépendance? Alors, la technique, c'est effectivement l'occupation et le quadrillage du territoire avec des déplacements forcés de population, ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas sur les moyens, puisqu'on légitime la violence de sa propre action par le fait qu'on lutte contre des terroristes. N'oubliez pas que le terme terroriste a un avantage énorme, c'est que si vous qualifiez l'autre de terroriste, pratiquement, ça vous ouvre tous les droits. Deuxième remarque qui a été très importante également pour la psychologie collective des Algériens, l'opération qu'on a appelée la Bleuite. La Bleuite, c'était des militants du FLN retournés par les soldats français et utilisés comme dénonciateurs. Donc on les appelait, c'était la Bleuite parce qu'ils étaient habillés de bleu de chauffe, si vous voulez, ils se baladaient dans la casbah, ils disaient là il y a une cache, là il y a un commerçant qui recueille l'argent, etc. Et donc ça a introduit un élément très important dans la suite de l'histoire algérienne, c'est que L'idée, si vous voulez, que de l'ennemi de l'intérieur, qui évidemment va se doubler avec la question des harkis, c'est-à-dire, vous voyez, les services de renseignement sont capables d'agir en Algérie, et ça donnera base à la théorie du complot, si vous voulez, qu'on retrouve beaucoup dans le monde arabe aujourd'hui, c'est-à-dire que l'idée que les services de renseignement sont capables, aussi capables que dans les films, je peux vous garantir que ce n'est pas le cas. Mais c'est quand même un épisode qui est très intéressant parce que, encore une fois, ça laisse une trace, si vous voulez. C'est-à-dire que ça laisse une trace sur, finalement, qui a été collabo, qui a été combattant. On a connu ça, nous, pendant l'occupation, mais l'Algérie l'a connu en grandeur nature pendant la guerre d'indépendance. La bataille d'Alger, donc vous le connaissez, on a confié la mission aux parachutistes d'arrêter la campagne d'attentat. Alors, la campagne d'attentat déclenchée par le FLN est provoquée par le fait que deux combattants du FLN sont condamnés à mort par la justice française et exécutés. Et donc, le FLN, parti politique, va décider de commencer une campagne d'attentat terroriste en ville, et à laquelle va répliquer le gouvernement français, Guy Mollet à l'époque, de confier la gestion de la ville d'Alger aux parachutistes. Donc, technique de quadrillage de la ville, arrestation un peu au chalut, si vous voulez, pour ramasser un peu tout le monde, reconstitution de l'organigramme, de façon à essayer de remonter le plus haut possible dans l'organisation. Alors, utilisation de moyens de torture, ça on le sait. Bon, la GIGN, Massus y était soumis, George Bush ne s'y est jamais soumis. Enfin, je le signale quand même, c'est important, parce que les deux ont autorisé la torture. Il y en a un qui a quand même essayé de savoir ce que ça faisait, l'autre qui n'a jamais essayé. Ce qu'il faut savoir, c'est le bilan de l'opération, c'est-à-dire qu'il y a 33 bombes qui ont été découvertes par l'opération de parachutisme. Donc, dans toutes les opérations antiterroristes, vous avez toujours ce dilemme, c'est-à-dire, peut-on lutter contre des moyens terroristes avec des moyens légaux? C'est une question qui va être perpétuellement renouvelée. Vous savez bien qu'après le 11 septembre, les Américains ont complètement basculé dans un système de non-droit. Encore une fois, parce que ce traumatisme provoqué par l'attentat terroriste fait voler en éclats, en général, les principes républicains. Ce qui est intéressant dans le cas de la bataille d'Alger, c'est que c'est une victoire politique, une victoire militaire et une défaite politique. Parce que, évidemment, toute la question, c'est la défaite politique et morale, la démission du général Paris de la Bollardière, la démission de Tedjin, etc., etc. C'est-à-dire de gens qui disent « mais nous avons fait la résistance, nous savons ce que c'est que la torture, nous savons ce que c'est que d'être un résistant, et donc nous ne pouvons pas utiliser contre des résistants algériens la même technique que ce qu'ont utilisé les Allemands contre nous. » Alors, on a ce genre de situation aujourd'hui avec l'IRA irlandaise, avec le TA basque, avec le FLNC corse, etc. En général, le processus de négociation permet en général de calmer l'action violente, l'action terroriste. Par contre, ce qui est intéressant dans les cas récents, c'est que, comme l'objectif politique est en général inacceptable, par exemple la sécession du Pays basque pour l'Espagne, ou la sécession de la Corse pour la France, on va vers une dérive mafieuse. C'est-à-dire que tout le savoir-faire, si vous voulez, de la clandestinité est utilisé pour faire des attaques de banques dont on explique qu'en fait elles ont un but révolutionnaire, ou du racket dont on va expliquer que c'est l'impôt révolutionnaire. Le FNLC s'est fait une spécialité là-dedans. Et puis, très rapidement, évidemment, le fractionnement entre groupes, c'est-à-dire que finalement, la rivalité, la violence se tourne aussi bien à l'intérieur du système du FNLC canal historique contre le FNLC canal proto-historique ou je ne sais quoi, si vous voulez. Et donc, vous avez ces dérives mafieuses qui se règlent en général à coup de pistolet, ce qui est également vrai dans l'IRA. Hein. Alors, troisième modèle qui me paraît très intéressant aussi, c'est le modèle Organisation de libération de la Palestine. Parce que, paradoxalement, le terrorisme de l'OLP est un terrorisme de l'échec de l'action militaire. C'est-à-dire que, pratiquement après la guerre des six jours, si vous voulez, où les États arabes à la périphérie d'Israël ont toutes leurs armées qui sont quasiment mises à plat, il n'y a plus l'idée de sanctuaire. C'est-à-dire qu'aucun État arabe n'est prêt à sanctuariser l'action des Palestiniens sur son territoire pour pouvoir mener des actions violentes sur le territoire israélien. Et vous connaissez l'épisode de Septembre Noir, c'est-à-dire le moment où la Jordanie extermine les Palestiniens dans leur camp parce que, justement, ils ne veulent pas avoir d'ennui avec Israël. Donc, en fait, c'est une guérilla qui échoue sur le plan militaire, pratiquement pas d'action sur le territoire israélien, mais qui, par contre, va internationaliser le terrorisme. C'est-à-dire, puisqu'on ne peut pas frapper sur le territoire, on va frapper des objectifs liés au territoire à l'extérieur, détournement des avions d'El Al, ou on va frapper des Israéliens à l'extérieur, Jeux Olympiques de Munich. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est de populariser la crise, la cause, si vous voulez, encore une fois, sans que ça ait d'effet militaire sur l'objectif principal, c'est-à-dire sur Israël. Et dans une certaine mesure, c'est une réussite, puisque 18 mois après Les Jeux de Munich, vous vous souvenez, c'était une équipe israélienne qui avait été prise en otage par un commando de Septembre Noir, ou du FPLP, je ne me souviens plus. 18 mois plus tard, Yasser Arafat est à la tribune de l'ONU. Et donc, vous voyez que le qualificatif de terrorisme n'est pas suffisamment dégradant pour empêcher que la cause soit reconnue, puisque à ce moment-là, il fait son discours historique à l'ONU. Bon. Les principaux problèmes de l'OLP, des rivalités violentes par absence de leadership, évidemment, puisque le leadership, si vous voulez, est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'Arafat, il a passé l'essentiel de sa vie dans les pays périphériques, en Tunisie, un peu partout dans le Golfe, etc. Mais pratiquement, les Palestiniens de l'intérieur n'ont pas le même sort que les Palestiniens de l'extérieur. Dans les pays où sont accueillis les principaux camps de réfugiés, ben, enfin, il y a la répression qui est exercée par le régime en place qui veut garder le contrôle des populations. Évidemment, la Jordanie est le principal pays concerné, puisque sa population est majoritairement palestinienne. Et donc, on est dans une situation où le terrorisme est téléguidé à distance. Donc, l'objectif, c'est évidemment la recherche de la médiatisation internationale. Les leaders vivent hors du groupe, hors du territoire, et ça, on va voir qu'ensuite, quand les négociations vont s'entamer, le discrédit des leaders est extrêmement important. Et évidemment, la naissance de groupes dissidents qui estiment que la stratégie de Arafat ou la stratégie de l'OLP n'est pas la bonne, etc., etc. Alors, ça n'empêche que ce modèle a été extrêmement intéressant pour deux raisons. D'abord, la réplique israélienne est assez brutale, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ça se traduit par une répression indifférenciée. Statistiques données par le Parlement européen, entre 2000 et 2003, 28 000 Palestiniens incarcérés, ce qui est quand même pas mal. En avril 2003, on était sur 5 500 prisonniers, et dans les deux intifadas, on a 2 700, puis 577... Non, c'est pas bon mon chiffre là. Oui, 577 Palestiniens lors de la deuxième intifada. Et quand il y a eu des actions de répression sur Gaza, actions brutales, si vous voulez, menées par des moyens militaires, 2000 morts la première fois, 1400 morts la première fois, 2000 morts la deuxième fois, et si vous voulez, encore une fois, ça n'arrête absolument pas l'action militaire des Gazaouis avec les lancements des missiles Kassav, les attentats suicides, etc. Donc, on a là la démonstration grandeur nature que, quelle que soit la brutalité de la répression militaire, on n'aboutit pratiquement pas, on ne tarit pas, si vous voulez, la cause politique du terrorisme. Quadrillage de la colonisation, ben ça c'est le côté que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on continue l'implantation des colonies dans les territoires normalement attribués à l'autorité palestinienne, avec le développement d'un mur qui fait maintenant 700 km, c'est-à-dire qu'on a réussi à détruire le mur de Berlin, mais on se refuse à critiquer le mur israélien. Je ne sais pas d'ailleurs qui fournit le ciment, je serais assez curieux de savoir, parce que je suis sûr que ce serait une belle opération de déstabilisation si vous voulez racheter une grande cimenterie internationale. Dernière remarque, effectivement, le modèle politique palestinien a du mal à gérer la paix, parce que quand des gens ont vécu pendant de 67 à pratiquement jusqu'aux accords d'Oslo à l'extérieur avec des subventions versées par les pays alliés qui sont les pays du Golfe, etc., leur situation n'a rien de comparable avec celle des Palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire que leur légitimité politique n'est même pas reconnue par les groupes de l'intérieur, d'où la contestation par le Hamas, par exemple, de ce que peut représenter le Fatah. Le trésor de guerre OLP, quand même, en 1980, était déjà de 800 millions de dollars, donc ça ne vous incite pas, si vous voulez, à vous sacrifier complètement pour aller vous battre sur le territoire. Bon. Alors, le modèle a fonctionné parce que, quand même, beaucoup de copies du modèle OLP, c'est-à-dire que l'Azala, par exemple, arménienne, qui évidemment était, comment dire, fondamentalement imprégnée par la guerre civile au Liban, a tenté effectivement de viser des objectifs turcs pour faire reconnaître le génocide, pour faire reconnaître la cause arménienne, puisqu'on n'était pas dans une guerre, comment dire, il n'y avait pas encore d'indépendance de l'Arménie à cette époque-là. Bon. L'Azala arménienne fait entre autres un attentat à Orly, devant le bureau de Turkish Airlines, dans lequel 8 Français sont tués. On a quand même libéré les types qui étaient responsables de l'attentat terroriste de Turkish Airlines. Et quand il est rentré en Arménie indépendante, il a été célébré comme un héros. Donc je vous le dis parce que quand vous retrouverez l'épisode pour d'autres causes et qu'on considérera que c'est indigne, il faut penser que celle-là l'était aussi, surtout pour les familles des Français qui ont été assassinés parce qu'ils n'avaient rien à voir avec le génocide arménien. Dans les camps palestiniens à l'époque, 40 groupes en formation, en entraînement. Donc vous voyez, le modèle OLP, il fonctionne à cette époque-là, et vous avez effectivement Fonction Armée Rouge, les brigades rouges italiennes, l'armée rouge japonaise, etc. Et alors l'idéologie de base, c'est l'idéologie tiers-mondiste, c'est-à-dire on est solidaire parce qu'on lutte ensemble contre l'impérialisme, et donc on va faire l'action sous mandat, c'est-à-dire que l'armée rouge japonaise va effectivement faire un attentat à l'aéroport de Lod, à Tel Aviv, pour le compte de l'OLP. Cela dit, pourquoi la cause OLP échoue ? Ben parce que effectivement, l'action policière est extrêmement bien menée, l'action militaire aussi, et donc il n'y a pas de soutien de la population, et surtout, il n'y a pas de sanctuaire. Il n'y a pas d'endroit dans lequel les combattants de l'OLP peuvent se reposer, surtout qu'ils ne peuvent pas mener d'action sur le territoire israélien. Donc, on est dans un monde d'hypocrites, ce n'est pas spécialement nouveau, mais j'en cite quelques exemples ici parce qu'ils sont intéressants. C'est l'époque où on fait... C'est les bouquins de Claire Stirling et autres, c'est pour expliquer que le terrorisme est sponsorisé par des États. Donc vous avez la liste américaine sur les États terroristes, et en particulier vous avez Cuba. Je ne sais pas pourquoi Cuba était là, mais enfin on s'imagine bien pourquoi Cuba était dans une liste de pays qualifiés de terroristes. Cas beaucoup plus intéressant, évidemment des actions terroristes menées par les services de renseignement des pays démocratiques, je veux dire, sinon à quoi servent les services de renseignement. Donc on est dans l'hypocrisie. Bon, je vous en cite un exemple, il y a eu six ingénieurs iraniens qui ont été assassinés à Téhéran. Imaginez qu'on assassine six ingénieurs nucléaires quelque part ailleurs dans le monde. On considérerait que c'est des attentats terroristes. Mais enfin, c'est des actions de services de renseignement, donc ça doit être considéré comme des actions d'État, donc ce n'est pas du terrorisme. Le cas le plus intéressant, c'est celui de la France avec les Moudjahidines du peuple. Bon, les Moudjahidines du peuple iraniens sont un groupe d'opposition qui avait été les premiers à combattre violemment contre le Shah d'Iran. Et quand il y a la révolution de 1979, ils participent à la révolution. Mais très vite, si vous voulez, ils sont en opposition avec Khomeini, parce qu'il y avait deux crocodiles dans le marigot. Il y avait Khomeini, il y avait Massoud Rajavi. Et Massoud Rajavi, au nom de son historique, si vous voulez, de lutte contre le Shah, se considérait comme le leader de la révolution. Mais il avait mal compris que Khomeini était plus habile que lui, puis qu'il avait toute la hiérarchie chiite derrière lui. Donc Massoud Rajavi essaye de faire un coup d'État, puis finalement il est viré, il arrive en France, statut de réfugié politique. Et puis, dans la guerre Iran-Irak, dans laquelle je ferai remarquer que nous soutenons l'agresseur, les Irakiens, pour mettre sous embargo l'agressé qui est l'Iran. Encore une fois, apprenez à décliner les principes diplomatiques. Les Moudjahidines du peuple, vous vous souvenez des attentats de la rue de Rennes. Donc on accuse les Iraniens d'avoir fait les attentats de la rue de Rennes, en particulier d'avoir fait des attentats sur le territoire français. On envoie deux diplomates à Téhéran pour dire « c'est pas bien de faire des attentats chez nous quand même, c'est pas sérieux ». Ils nous disent « mais c'est vous qui faites des attentats chez nous ». Vous avez donné le statut de réfugié politique aux Moudjahidines du peuple. Ils ont fait chez nous un attentat qui a tué le président de la République, la moitié du gouvernement et la moitié du parti politique au pouvoir. Quand on vous donne ce genre d'argument, en général, ça vous laisse silencieux, si vous voulez. Bon. Et effectivement, c'est le moment où Pasqua décide d'expulser Massoud Rajavi, donc qui va aller en Irak, et qui va aller faire la guerre aux côtés des Irakiens contre son propre pays. Donc ça nous rappelle des souvenirs d'Orio, D.A., etc., enfin la collaboration. Donc c'est l'exemple même d'un parti politique qui, aujourd'hui en France, a pignon sur rue. Il fait des manifestations avec beaucoup d'hommes politiques pour expliquer ce que serait le futur de la démocratie en Iran, mais qui n'a aucune crédibilité sur place. Bon. Donc, terroriste ou pas, ce n'est pas mon problème. Simplement, vous voyez combien l'histoire peut avoir des retournements assez intéressants. Alors, la partie la plus nouvelle, si vous voulez, c'est le terrorisme religieux, parce que celui-là, comment dire, c'est un peu la crise du tiers-mondisme, c'est-à-dire des idéologies laïques de la Révolution, qui vont laisser la place au terrorisme à base religieuse. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les grandes religions ont été touchées. Toutes. Un exemple, les deux signataires de la paix, Sadat et Rabin, sont tous les deux assassinés par des radicaux de leur propre religion. Sadat est assassiné par un frère musulman, vous vous souvenez de l'épisode pendant un défilé militaire. Rabin est assassiné par Yigal Amir, qui lui-même considère que Rabin, pour avoir signé un accord de paix avec les Palestiniens, est un traître. Et donc Yigal Amir est un étudiant religieux qui va considérer que, pour des raisons religieuses, il faut assassiner Rabin. On a la même chose avec les suprémacistes américains, c'est-à-dire ceux qui sont l'attentat d'Oklahoma City. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 1994, l'attentat d'Oklahoma City, c'est-à-dire c'est une attaque contre un gouvernement fédéral. Alors ça renvoie, si vous voulez, aux vieilles traditions américaines. Vous savez, l'État fédéral, c'est l'État de l'oppression. En fait, le système américain doit être un système de la liberté absolue. Et le fondement idéologique des suprémacistes, c'est la suprématie de la race blanche. Hein, on est envahi par des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas blancs, etc. Et ça va se traduire par un attentat contre un immeuble à Oklahoma City, dans lequel il y avait également une crèche, donc il y a, je crois, 263 morts, quelque chose dans ce genre-là. Et ce qui est intéressant dans le comportement de l'auteur de l'attentat, qui s'appelle Timothy McVeigh, c'est qu'il a exactement la posture du salafiste du kamikaze. C'est-à-dire, il fait l'attentat, on le découvre, il est condamné à mort en première instance, il ne fait pas appel. C'est-à-dire qu'il considère que de toute façon, son sort, c'est d'être, comment dire, condamné à mort. Donc on a exactement la posture qu'on va retrouver dans les attentats suicides d'ailleurs, c'est-à-dire peu importe ce qui est dans la valeur démonstrative de l'acte terroriste religieux, c'est que c'est le sacrifice de l'individu qui est important, alors que dans une guerre traditionnelle, c'est la survie de l'individu qui est important, puisqu'il faut poursuivre la lutte. Alors, on a la même chose dans le BJP indien hein, aussi, puisqu'on a effectivement, n'oubliez pas, un parti qui est un parti nationaliste extrémiste aujourd'hui en Inde, avec l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Modi, effectivement. Et puis, évidemment, on a aussi du terrorisme sectaire, et le cas le plus intéressant, c'était la secte Aum Shinrikyo, qui était la secte qui a fait cet attentat au Japon, puisque c'est le premier attentat non conventionnel, premier attentat terroriste non conventionnel, avec une attaque chimique contre le métro de Tokyo. Lui aussi, c'était une secte de l'apocalypse, hein, la fin du monde est pour bientôt. D'ailleurs, regardez le terrorisme de Kobe, le tremblement de terre de Kobe, je ne sais plus ce qu'il avait trouvé, enfin, le réchauffement de la planète, peu importe. De toute façon, quand vous voulez prouver l'arrivée de l'apocalypse, vous avez tous les arguments qu'il vous faut. Je crois qu'on doit être avec les salafistes, vous avez la 148e annonce de la fin du monde depuis la disparition de l'Empire romain. Mais enfin, bon, on n'a jamais été aussi près de la fin du monde, de toute façon, donc ils ne peuvent qu'avoir raison. La question, c'est plutôt de savoir quand, mais ça... Même chez les témoins de Jéhovah qui avaient annoncé 1914, si vous voulez, ils ont inventé la technique du report. C'est-à-dire que la fin du monde est reportée à plus tard pour cause de travaux. Alors, le terrorisme sectaire d'Aoum est extrêmement intéressant parce que là, c'est l'exemple même, si vous voulez, d'un groupe qui est suffisamment organisé, arrive à monter toute une opération préparant des armes chimiques avec un attentat dans une station de métro qui est une correspondance pour faire le maximum de monde, pour accélérer la fin du monde. Cela dit... Aoum était un personnage intéressant parce qu'il pensait que les victimes de son attentat, de toute façon, seraient les premiers à gagner le paradis. Donc il y avait quand même un sens écuménique et humaniste chez lui, c'est-à-dire qu'il faisait des attentats terroristes pour le bien-être de l'humanité. Alors, la caractéristique du terrorisme religieux, c'est que c'est un terrorisme millénariste. Alors je sais bien que le terme de millénarisme, moi, m'a posé problème quand je parlais dans des enceintes musulmanes, parce qu'effectivement, le millénarisme, c'est par nature un concept de l'histoire chrétienne. Parce qu'évidemment, ça suppose le point de départ de la naissance de Jésus, donc 1000 ans. Mais quand vous n'avez pas le même calendrier, le concept de millénariste n'a pas exactement le même... Enfin, disons, on a du mal à faire comprendre ce que c'est. Cela dit, ça a existé aussi dans l'islam. C'est-à-dire que ça dépend quel est le point de départ qu'on prend. Alors, il y a des millénaristes musulmans qui considèrent que c'est la naissance du prophète, d'autres qui vont considérer que c'est la naissance de l'État d'Israël. Enfin bon. Mais pareil, un coup c'est 1000 ans, un coup c'est 1500 ans. Mais enfin, bon, de toute façon, la technique marche toujours pareil. C'est-à-dire, c'est une guerre cosmique. C'est une guerre du bien contre le mal, donc on ne négocie pas avec le mal. Il n'y a pas de processus politique dans la guerre religieuse. Le mal, on l'extermine. Il n'y a pas de problématique politique, c'est-à-dire que le parti politique organisé genre léniniste n'existe plus. Le recrutement se fait par des techniques sectaires. Par exemple, sur les sites salafistes aujourd'hui, vous avez toute la technique des sectes qu'on a vue, par exemple, pour les témoins de Jéhovah, qu'on a connu chez Jim Jones, qu'on a connu... lors du temple solaire, c'est-à-dire séduction. Bien sûr que vous connaissez un malaise. Bien sûr, je vous comprends très bien ce que vous avez. Je sais que vous avez envie de vivre une autre vie. Je sais que vous avez le sentiment d'échec, etc. Donc vous avez tout un sentiment de la séduction auquel vous apportez une réponse en créant un réseau de relations. Deuxième principe, c'est vos parents ne vous comprennent pas, vos proches ne vous comprennent pas. Et en fait, évidemment, ils ne vous comprennent pas. Participent du complot. C'est-à-dire, deuxième strate, c'est l'isolement. Et donc, il ne faut plus leur parler, il ne faut plus voir vos amis, etc. Et troisième strate, c'est le combat, c'est-à-dire qu'il faut combattre pour la cause juste. C'est le même processus qu'on avait avec le Jim Jones, par exemple. Mais parfois, la lutte se traduit par le suicide collectif. Hein, là, en l'occurrence, c'est le combat contre les forces du mal. Évidemment, le départ en Syrie pour les cas les plus récents. Dernière remarque, le combat contre le mal, encore une fois, ce n'est pas une orientation politique. C'est-à-dire tout domaine, tout lieu sont bons. Par exemple... Cher Yassine, le type du Hamas, expliquait que tuer des Juifs n'était pas un problème, puisque, ou tuer des Américains, ce n'est pas un problème, puisqu'ils ont voté pour l'élection de George Bush, donc tous les Américains sont responsables, donc il n'y a pas de distinction entre un Américain en uniforme ou un Américain sans uniforme. Pour les Juifs, c'était, de toute façon, ils soutiennent la colonisation, donc ils sont responsables des malheurs du peuple palestinien, donc tout Juif, quelle que soit sa situation dans le monde, est considéré comme responsable. Alors, l'originalité, évidemment... La plus en plus développée, c'est l'attentat suicide, parce que, comme c'est une mythologie de l'Apocalypse, l'intérêt du suicide, enfin du sacrifice, c'est qu'évidemment, ça fait gagner le paradis. C'est quand même une assurance qui vaut la peine, parce que c'est quand même là qu'on est censé passer le plus de temps. Et donc, c'est suffisamment convaincant pour que en tout cas dans les recrutements qui sont les départs en Syrie, l'idée du sacrifice individuel, qui est le contraire de la stratégie militaire classique. C'est-à-dire qu'encore une fois, la stratégie militaire classique, c'est la survie du combattant pour que la lutte continue. Là, l'acte sacrificiel est la démarche terroriste elle-même. Les thématiques racistes, c'est malheureusement pas la peine de revenir là-dessus. Je me suis quand même posé la question pour les femmes kamikazes. Parce que, j'ai écrit en d'autres temps un guide du paradis. C'est-à-dire, je me suis dit, depuis le temps que les hommes se foutent sur la gueule pour expliquer qu'ils ont le Dieu unique et miséricordieux, la question qui m'avait préoccupé au départ, c'est est-ce que les Américains tués en Irak, puisque c'est une croisade, vont au paradis des chrétiens ou dans l'enfer des musulmans, et vice-versa. C'est quand même une question qui a une légitimité, puis c'est une question de bon sens quand même. Et donc, je me suis dit que depuis le temps que les hommes se foutaient sur la gueule pour des raisons religieuses, c'est qu'il devait y avoir plusieurs dieux uniques, ce qui expliquerait qu'il y ait plusieurs définitions du paradis. Et alors, le paradis musulman, vous le connaissez, c'est, pour les hommes, c'est assez clair, hein, puisque c'est le nombre de vierges qui vous attendent là-bas, plus des boissons qui sont de l'alcool, mais qui ne saoulent pas. Bon, enfin, c'est bien comme définition. Alors, la question, c'était pour les femmes. C'est-à-dire, finalement, pourquoi des femmes se sacrifient-elles ? Puisque ce n'est pas la même promesse. En fait, j'ai trouvé deux types de réponses. Soit on leur promet de retrouver leur mari, ce qui n'est pas véritablement la définition du paradis, soit on leur promet de faire un beau mariage, ce qui laisse penser que leur mariage sur Terre n'était pas obligatoirement la réussite. Mais enfin, ce n'est pas grave. Ça, c'était le côté ironique, si vous voulez, de la conviction avec laquelle on arrive à faire à quelqu'un exactement le contraire de ce qu'il veut. Alors, le salafisme djihadiste. Deux modèles aujourd'hui. Bon, il y a Al-Qaïda, qui a sa célébrité, qui a sa campagne de communication maintenant déjà bien installée, qui est une espèce de holding qui labellise, hein, puisque vous avez Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Qaïda à la péninsule arabique, Al-Qaïda maintenant dans la péninsule indienne, avec des cibles extrêmement dispersées. Mais on est dans la première génération du salafisme djihadiste, c'est-à-dire sur les sectes millénaristes mondialisés. Bon. Prenez le cas, par exemple, dans l'attentat du 11 septembre, il y avait 6 nationalités qui étaient représentées, et il y a quand même 93 nationalités parmi les victimes. Donc c'est quand même déjà, là, si vous voulez, une forme d'attentat comme on n'en avait jamais connu jusque-là. Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est le seul attentat comme ça. Parce que la machine stratégique auquel j'ai appartenu, c'est quand on est face à un événement très surprenant, on crée un mot. Donc là, on a créé le mot d'hyperterrorisme. Bon, c'est un mot dans lequel il n'y a qu'un seul attentat, c'est celui-là. Bon, évidemment, puisque une fois que l'attentat s'est déroulé, si vous voulez, toutes les mesures de précaution empêchent ce scénario-là. Or, la logique du terrorisme, c'est toujours de faire le scénario à côté. Sinon, s'il refait le même scénario, il a des chances d'échouer. Donc, si vous voulez, discussion intéressante que j'ai eue une fois dans un colloque, un jeune beurre de deuxième génération qui me dit « Comment expliquez-vous qu'il n'y avait pas de juifs dans les victimes du World Trade Center ?» Et Olivier Roy lui dit « il n'y avait pas de Français non plus. » Comment l'expliquez-vous ? Donc, vous voyez, c'est assez intéressant parce que la théorie du complot, c'est si les Juifs ne sont pas là, c'est qu'ils étaient informés, donc évidemment, ça prouve que tout ça était organisé. Et si vous leur dites, mais il n'y a pas de Français non plus, vous n'allez pas supposer que les services de renseignement français sont aussi efficaces que le Shin Bet. Je veux dire, ça ne rentre pas dans les définitions intellectuelles. Mais vous voyez, la théorie du complot, c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, dans ces sectes de l'Apocalypse, expliquer que le monde entier vous en veut et qu'ils vont empêcher l'arrivée, le retour du Messie sur Terre, puisque dans l'Apocalypse, rappelez-vous, ce qui est gênant d'ailleurs pour les salafistes, c'est que tout le descriptif de l'Apocalypse est en fait un apocalypse d'origine juive, puisque c'est les prophètes, qui évidemment sont repris ensuite dans les évangiles de l'an Saint-Jean, qui sont ensuite repris dans le Coran. Donc, ils sont convaincus que les juifs sont partout, y compris dans l'Apocalypse, ce qui est quand même un problème. Et donc, dans cette bataille finale, vous savez, c'est la bataille de l'Armageddon, qui va être les forces du mal contre le retour du Messie, qui va permettre ensuite 1000 ans de guerre, etc., 1000 ans de paix, etc., etc. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que vous trouvez aujourd'hui, évidemment, dans les descriptifs de films, vidéos pour le recrutement de gens partant en Syrie. Ce qui est le plus étonnant, c'est que c'est un argumentaire qu'a utilisé George Bush pour essayer de convaincre Chirac de venir en Irak lors de l'invasion. Deux fois de suite, il a essayé de le convaincre que c'était la bataille finale de l'Armageddon. Chirac n'a pas voulu le raconter. Il a dit à un journaliste qu'il n'a autorisé à le révéler que quand il aurait quitté le pouvoir. Mais George Bush était un reborn muslim. Un reborn christian comme d'autres étaient, comme Ben Laden est un reborn muslim. Alors, les méthodes employées sont très différentes, puisque vous avez eu à la fois attaque de pétroliers, attaque contre de grands hôtels touristiques, etc., etc. Je laisse ça de côté. Ce qui est le plus intéressant dans le modèle de l'État islamique, c'est que, alors qu'on est là dans une vision planétaire avec pour cible principaux les puissances occidentales, cible principale des pays occidentaux. Dans le modèle État islamique, c'est la territorialisation, c'est-à-dire on crée le germe d'un État sans frontières, puisqu'évidemment c'est la Oumma, c'est l'objectif d'un projet universaliste. Il rétablit le modèle mythique du califat, ça c'est extrêmement intéressant, alors que Ben Laden n'avait jamais osé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais considéré qu'il était suffisamment... Excusez-moi. Il n'a jamais considéré qu'il avait, si vous voulez, suffisamment d'audace intellectuelle pour le rétablissement du califat, ce que fait effectivement al-Baghdadi. Rivalité entre les deux groupes, puisqu'évidemment, plus musulmans que moi, tu meurs, donc il y a évidemment le combat de super muslim contre uber muslim, c'est-à-dire savoir qui est effectivement le plus pratiquant. Et c'est une guerre effective, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, le nombre d'accrochages entre les deux groupes est aujourd'hui très important. La cible première de l'État islamique, quand même, très important, c'est les autres musulmans. C'est-à-dire aujourd'hui, les principales victimes ne sont pas du tout les Occidentaux. Je sais que c'est très médiatisé dès qu'il y a une décapitation, etc. Mais les principales cibles de l'État islamique, ce sont les chiites, ce sont les soufis, ce sont tous ceux qu'on appelle les hypocrites. Dans les hypocrites, ce n'est pas vous et moi, hein, sinon on serait tous disparus. C'est les mauvais musulmans. Donc, si vous voulez, c'est une guerre interne à la religion musulmane aujourd'hui. Juste une remarque pour expliquer peut-être le succès de ce modèle-là. Pour comprendre ce que voulait Al-Qaïda, il fallait lire. Pour comprendre ce que veut l'État islamique, il suffit de regarder des vidéos. C'est très intéressant parce que ça explique, si vous voulez, le saut de génération. C'est-à-dire qu'avec quelques vidéos qui sont suffisamment bien argumentées, qui vous mettent ensuite en rapport avec des gens qui vont vous expliquer tous les bienfaits de la conversion au salafisme et surtout à la participation à la guerre, on est dans la génération, si vous voulez, des jeux vidéo. La structure même de ces vidéos est assez proche des séries américaines qui font beaucoup de succès à la télévision. Alors, quelques remarques pour terminer. L'idéologie de départ est quand même le salafisme djihadiste. Le salafisme, c'est la pratique de la religion telle que pratiquaient les salafs, c'est-à-dire les compagnons du prophète. La matrice idéologique, c'est le wahhabisme saoudien, dont on ne s'est absolument pas préoccupé pendant toutes les années 75 jusqu'à 90-2000, c'est-à-dire... On partait d'une analyse stratégique qui est assez simple, hein, les ennemis de nos ennemis sont nos amis, donc si l'Arabie saoudite était contre le communisme, c'est que ça ne pouvait être que des alliés. Pourquoi j'insiste sur ce côté? Parce que, si vous voulez, pendant toute la guerre d'Afghanistan, où l'aide internationale passait par l'intermédiaire de l'Arabie saoudite et du Pakistan, l'Arabie saoudite avait sa propre stratégie. Sa propre stratégie, c'était de créer des madrassas wahhabites au Pakistan, qui est plutôt de tradition hanbalite, c'est-à-dire pas du tout de la même tradition, si vous voulez, radicale de l'islam. Or, tout le monde a été surpris, 15 ans après la fin de la guerre, enfin après le début de la guerre, de voir apparaître les talibans. Les talibans, c'était des étudiants en religion. On connaissait Massoud, on connaissait les différents chefs de guerre ouzbeks, etc. Sauf qu'on voit apparaître tout à coup des gens que personne ne connaissait, qui sont les étudiants en religion, qui sont le pur produit, si vous voulez, de ces madrassas qu'avaient créés les Saoudiens. Donc l'Arabie saoudite avait sa propre stratégie internationale, dont on découvre les effets en Afrique subsaharienne aujourd'hui, mais dont on a vu aussi certains effets dans nos banlieues, avec ce discours extrêmement radical qui est celui du salafisme, avec sa version violente qui va être le salafisme djihadiste. Alors, l'espoir, c'est que chacun utilise le takfir, c'est-à-dire le pouvoir d'excommunication, c'est-à-dire, moi je suis plus musulman que toi, et toi tu es un mauvais musulman, etc. Donc d'où la guerre entre les deux groupes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a un bouquin qui a été publié par les Américains sur des documents trouvés, qui s'appelle « La gestion de la barbarie », je ne sais pas si la traduction est bonne, qui est en fait une espèce de guide de stratégie sur la gestion, si vous voulez, de la conquête du pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette conquête du pouvoir se fait en trois temps. C'est d'abord l'usure de l'adversaire, donc par des attentats qui vont être dispersés à droite et à gauche, avec le sentiment de répétition et de l'incapacité à arrêter ce processus de violence. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la gestion de la barbarie, c'est-à-dire l'utilisation de la violence extrême va permettre d'éradiquer toutes les anciennes formes du pouvoir. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on trouve en Syrie, où on a effectivement les décapitations, la coupure de main, enfin l'enlèvement des femmes non musulmanes, etc. Donc, araser complètement l'ancien système pour reconstruire ensuite un système qui va être celui de l'État islamique version al-Baghdadi. Cette gestion de la barbarie, c'est là qu'elle est intéressante, parce qu'elle provoque, à cause de sa médiatisation, l'intervention occidentale. Quand vous trouvez sur un site djihadiste 2000 morts à Gaza, on fait rien, 4 occidentaux égorgés, on envoie l'armée, vous avez le descriptif exactement du piège dans lequel ils voulaient faire tomber les Occidentaux, dans lequel se sont précipités les Français et notre président à l'unisson. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que rappelez-vous le début de la guerre d'Algérie, novembre 54, un couple d'instituteurs qui vont rejoindre leur poste dans les Aurès, qui voyagent en bus pour aller dans leur poste. Le bus est arrêté par les Félagas, c'est le novembre 54. Ils sont sortis du bus et ils sont exécutés par les Félagas. Immédiatement, mobilisation de la classe politique française, ça ne se passera pas comme ça, les assassins sont poursuivis, on va envoyer l'armée, etc. Vous connaissez la fin du film, 7 ans de guerre, quelque chose comme 800 000 morts à peu près, pour aboutir à la fin à l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que le piège classique du terrorisme, c'est provoquer l'action militaire, parce que l'action militaire est par nature brutale et par nature indifférenciée. Et effectivement, là, c'est ce qu'on a exactement avec la gestion de la crise sur l'État islamique. L'argumentaire principal est tiré de la diplomatie occidentale, c'est-à-dire que la mobilisation sur le fait que la diplomatie occidentale est une diplomatie hypocrite, hein, qui est une diplomatie militarisée, qui est extrêmement violente, et dans laquelle il n'y a pas de front. C'est-à-dire, s'il y a intervention militaire en Irak, notamment la première intervention, celle de George Bush, associée avec les Espagnols et les Anglais, ben ça veut dire qu'on peut faire des attentats terroristes à Londres et à Madrid, ce qui s'est effectivement passé. Et pareil pour Paris en janvier de cette année. Les répliques militaires, ben c'est le grand succès de l'opération en Afghanistan. L'Afghanistan, je vous le résume en quelques chiffres, plus longtemps que les Soviétiques, 12 ans, les Soviétiques n'y sont restés que 10 ans, 120 000 hommes, sans compter les forces de sécurité et les forces privées, les sociétés privées de sécurité, en ayant étendu la guerre au Pakistan, frappe de drones, pour un résultat qui est au moins aussi catastrophique que celui de l'intervention soviétique, parce que on sait, tout le monde annonce le retour des talibans. L'Irak, c'est le quatrième président américain qui décide une intervention militaire en Irak, hein, parce qu'il y a eu le père Bush avec le Koweït. N'oubliez pas quand même que ça a été une campagne de bombardement qui a duré 6 mois quand même. 6 mois de bombardement avec les moyens modernes, ça casse pas mal. Deuxième chose, la période de l'embargo avec les systèmes d'interdiction de survol. Ça, c'était Clinton. Troisième époque, c'est George Bush Jr., qui lui, alors, est la catastrophe humanisée. Et puis, quatrièmement, c'est alors qu'Obama se fait élire sur l'idée du retrait des troupes, qui refait l'intervention contre l'État islamique. Le paradoxe de l'Irak qui est extrêmement intéressant, c'est dans la gestion de la guerre George Bush, la stratégie américaine est assez simple. La suprématie technique américaine est telle qu'on peut détruire chez l'adversaire jusqu'à ce qu'il demande la paix. Donc on détruit les infrastructures, les routes, les ponts, les centres de commandement, etc. Et donc on était dans cette situation extraordinaire où quand Saddam Hussein finalement jette l'éponge, on explique aux Irakiens qui n'ont plus ni l'eau, ni l'électricité, ni l'air conditionné, ni la police, ni l'armée pour les protéger, qu'ils doivent être heureux parce qu'ils ont la démocratie. En général, ils commencent à regretter l'époque de la dictature quand ils sont à ce résultat-là. Donc l'adéquation entre les moyens militaires et l'objectif politique est extrêmement importante à comprendre. Encore une fois, le militaire, il va essayer de retenir la force. Mais enfin, quand vous utilisez une bombe de 250 kg, quand elle ne fait pas 500 kg sur une maison pour tuer un terroriste, en général, vous avez des chances de faire naître 12 ou 15 ou 90 familles de terroristes parce que vous tuez tous les autres autour. Et ça, c'est la caractéristique de l'action militaire telle qu'elle est menée aujourd'hui. Donc je sais bien qu'on parle de frappe intelligente. Je sais bien qu'on parle de dommages collatéraux quand on tue des gens par hasard, mais il reste que les dommages collatéraux créent plus de terroristes que la frappe intelligente ne permet de faire tomber. Alors, pour en terminer, donc effectivement, pas de définition consensuelle du terrorisme pour les raisons que je vous expliquais, parce que c'est pas, encore une fois, ce n'est pas une cause, ce n'est pas un objectif, c'est une méthode d'action. Je ne peux que regretter le fait que systématiquement on utilise des termes associés à l'islam pour parler de ce qu'on est en train de vivre, parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'islam, c'est le salafisme, et tant que les pouvoirs politiques ne se convaincront pas qu'il faut cibler l'ennemi, on met tous les musulmans dans le même sac. Donc notre président fait des contorsions où il parle du terrorisme international, c'est bien parce que ça ne qualifie personne, le terrorisme islamique, le maire de Nice lui parle d'islamo-fascisme, enfin bon, tout ça, si vous voulez, encore une fois, c'est une erreur stratégique majeure, parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'islam, c'est une certaine pratique de l'islam qui est la plus anti-républicaine, et c'est celle-là qu'il faut désigner. Deuxième remarque sur le glissement de la stratégie, ce que disait Baudrillard au moment de la guerre en Irak, avec Clausewitz, la guerre est censée être la continuation de la politique par d'autres moyens, avec George Bush, c'est la continuation de la non-politique, c'est-à-dire qu'on fait la guerre, c'est tout. Bon. Et pour Hollande, c'est un peu pareil. Le terrorisme n'est pas unique, il est multiple, c'est ce que j'essaie de vous démontrer. Le traitement exclusivement militaire du terrorisme, c'est un échec. En tout cas, il y a un succès relatif du traitement policier, puisque jusqu'à janvier, pratiquement, les services de police français avaient réussi à empêcher toutes les tentatives d'attentat, y compris des tentatives d'attentat chimiques, etc., etc. Donc il y avait un certain succès de la méthode policière, et encore une fois, sous l'autorité du juge. Là, tant qu'on est dans un système où la gestion militarisée là-bas, associée à une gestion policière ici, fait naître ici des candidats qui vont évidemment, la plupart du temps, être des formes, si vous voulez, très peu organisées, c'est-à-dire des loups solitaires ou de tout petits groupes, mais qui sont de plus en plus difficiles à contrôler, puis qui, évidemment, trouvent leur argumentaire dans la situation internationale. Bon, les actions antiterroristes ont changé les règles de la démocratie. Nous, on l'avait connu pendant la guerre d'Algérie, on avait beaucoup été critiqués par les Américains. Les Britanniques, quand ils se sont retrouvés face au terrorisme de l'IRA, ils ont fait exactement pareil, le Bloody Sunday, les détentions arbitraires, etc. Les Américains ont inventé, eux, un nouveau concept juridique, parce qu'ils ne voulaient pas appliquer les conventions de Genève aux types qu'ils arrêtaient en Afghanistan, donc ils ont inventé le concept d'ennemi combattant. Ça veut dire qu'ils n'en appliquent pas les conventions de Genève, c'est un droit à part, ça n'existe nulle part ailleurs, personne ne sait ce que ça veut dire, sauf que ça permet de garder des types à Guantanamo, pour certains depuis donc 13 ans, sans jugement. Il doit en rester 103, je crois. J'attire votre attention encore une fois sur l'hypocrisie de la vie internationale, parce que si vous êtes enlevé par un gang colombien, on appelle ça du kidnapping, si vous êtes enlevé par l'État islamique, c'est une prise d'otage, si vous êtes enlevé à Guantanamo, c'est un déni de droit. Donc il faut apprendre à renouveler, si vous voulez, le langage, pour ne pas qualifier les mêmes choses de la même manière. Vous n'avez pas plus droit à un avocat dans un cas. Vous ne savez pas si vous passerez devant un juge, et vous ne savez pas quand vous serez libéré. Donc, voilà, vous avez la même situation, mais il faut les qualifier différemment. Dernière remarque, moi je suis très préoccupé parce que la réélection de Netanyahou, la candidature de Jeb Bush, qui a lui-même dit récemment qu'il aurait approuvé l'intervention en Irak, et puis l'accession au pouvoir du roi Salman, bienvenue dans ce monde de fous. Je veux dire, c'est dramatique. On est dans une situation, moi je trouve stratégiquement, sur le plan global, extrêmement préoccupante. Voilà.